Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 5 décembre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran ne transigerait jamais sur la défense des intérêts et des ressources du pays, a ponctué le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Le mouvement Sarala du Yémen affirme que le pays a atteint un niveau de capacité militaire qui lui permet de répondre à l'agression de l'ennemi avec une puissance de feu remarquable. Et Mali, Burkina Faso, Guinée, légende au menu du sommet de la CEDEAO. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baredi, a souligné que la sécurité du Golfe Persique a entraîné une diminution significative de la présence de flottes extra-régionales dans cette zone stratégique. La réduction significative de la présence des flottes extra-régionales dans le Golfe Persique indique le succès de la République islamique d'Iran à établir une sécurité durable dans la région, a déclaré le général Baredi lors d'une interview accordée à l'agence de presse officielle IRNA dimanche 4 décembre en marge d'une visite à une base aérienne dans la ville méridionale de Bushehr. La sécurité pleinement établie dans la région est le résultat des efforts et du sens de responsabilité de la République islamique d'Iran. Et cette sécurité a été assurée par nos patrouilles aériennes et maritimes, 24 heures sur 24, a-t-il poursuivi. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a souligné l'importance de la sécurité commune pour les pays riverains du Golfe Persique en déclarant la sécurité du Golfe Persique contribue à la promotion des activités économiques de la population côtière dans la province hautement stratégique de Bushehr et fait relancer le commerce maritime et de la pêche ainsi que des activités liées au pétrole et au gaz. Le général Baredi a également annoncé la pleine préparation et la haute capacité des unités militaires de l'armée, du corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère de la Défense pour protéger les frontières du pays. Les responsables militaires et politiques iraniens ont déclaré à de nombreuses reprises que l'Iran était toujours prêt à défendre ses intérêts et ses ressources, avertissant que la sécurité du Golfe Persique et du détroit d'Hormuz était une ligne rouge de Téhéran. Selon l'Iran, la sécurité du Golfe Persique doit être assurée par les pays de la région et il n'y a pas besoin de la présence de forces étrangères dans les voies navigables internationales de cette zone maritime. Les responsables iraniens ont également décrit les activités déstabilisatrices d'Israël comme la principale source d'insécurité dans la région, mettant en garde les pays de la région contre des dangers de permettre à Tel Aviv de prendre pied dans la région. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que le Yémen a atteint un niveau de capacité militaire qui lui permet de répondre à l'agression de l'ennemi avec une puissance de feu remarquable. Auparavant, l'ennemi bombardait Sanaa et d'autres provinces, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de riposter à toute frappe avec des dizaines de missiles et de drones. A-t-il dit ce dimanche 4 décembre au micro de la chaîne d'information yéménite Al-Masira. Nos forces armées ont pu imposer une équation sur l'échelle de la dissuasion et de la terreur avec l'ennemi, a-t-il dit. Le général Sali a confirmé que la récente équation de dissuasion imposée par les forces armées dans le cadre de leur mission de protection de la richesse souveraine du pétrole et du gaz a prouvé son efficacité. La dissuasion et la mission de surveillance des forces armées yéménites ont prouvé leur efficacité dans la protection des richesses du pays, s'est-il félicité. Le porte-parole des forces armées yéménites a considéré les efforts des forces armées pour affronter l'ennemi comme une lutte sainte. Il a également rendu hommage aux martyrs qui ont aidé à renforcer la sécurité et la stabilité dont jouit le Yémen aujourd'hui. Le peuple yéménite est fier du courage et du sacrifice dont ont fait preuve les martyrs, a-t-il conclu. Les mouvements de résistance palestiniens, Hamas et djihad islamique, basés dans la bande de Gaza, ont condamné dans les termes les plus vifs la visite en cours à Bahreïn du président du régime sioniste. Le responsable du Hamas, Bassim Naïm, et le porte-parole du djihad islamique, Tahrir Salemi, ont condamné dimanche 4 décembre la visite d'Isaac Herzog à Bahreïn, quelques heures après son arrivée à Manama. Il devient ainsi le premier président israélien à se rendre dans le royaume. Bahreïn a signé un accord de normalisation négocié par les États-Unis avec le régime sioniste lors d'un événement organisé par la Maison-Blanche en septembre 2020. Depuis, les régimes de Manama et de Tel Aviv tentent de cimenter la soi-disant détente qui a été dénoncée par les Palestiniens et leurs partisans régionaux et internationaux qui la jugent comme un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. Bassim Naïm a qualifié la visite d'ignominieuse et a dénoncé la tentative du roi de Bahreïn, Hamed bin Issa al-Khalifa, d'accueillir le chef d'un régime d'apartheid qui dirige la plus grande structure terroriste du monde, la jugeant pathétique, a rapporté l'agence de presse palestinienne Shahab. Le monarque bahreïni reçoit le président israélien alors que les forces du régime sioniste continuent d'exécuter des Palestiniens dans les territoires occupés et que leur sang coule comme une rivière. La visite est également concomitante avec les violations continues de Tel Aviv contre les lieux sacrés du monde musulman, en particulier l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, a ajouté Naïm. Le responsable du Hamas a déclaré que pour faire plaisir à Tel Aviv, Manama a tenté d'imposer sa volonté à la nation bahreïnie. C'est alors que les dirigeants tirent leur légitimité et leur longévité politique de la volonté de leur nation et non de la fraternisation avec les ennemis des nations, a-t-il conclu. Le responsable du djihad islamique, quant à lui, a présenté le voyage d'Herzog comme une démarche visant à détourner l'attention de l'opinion publique mondiale des atrocités et des actes de terreur de ce régime. Tahrir Salemi a salué la nation bahreïnie et a appelé toutes les nations arabes musulmanes à élever la voix contre toute normalisation des relations avec le régime sioniste et les ingérences de ce dernier. En septembre dernier, le premier ministre israélien sortant Yair Lapid s'est rendu à Bahreïn pour y inaugurer l'ambassade d'Israël. Naftali Bennett s'y était rendu en début d'année, au mois de février. En signe de contestation à la visite d'Isaac Herzog, les Bahreïnis ont organisé dimanche des manifestations dans tout le pays pour réitérer leur soutien à la Palestine et condamner la normalisation des relations diplomatiques avec le régime de Tel Aviv. En France, des cyberattaques s'ajoutent aux grèves et contestations pour aggraver la crise en cours. Une cyberattaque a perturbé depuis samedi soir, 3 décembre, l'activité du centre hospitalier de Versailles. L'accueil des patients est par conséquent limité, a expliqué l'hôpital, précisant que le système informatique avait été coupé et une cellule de crise ouverte. Le 22 août dernier, c'est le centre hospitalier sud-francilien CHSF de Corbeil-Essonne qui avait été la cible d'une cyberattaque. Son fonctionnement avait été fortement perturbé pendant plusieurs semaines avant de revenir proche de la normale à la mi-octobre. La crise énergétique pousse l'Allemagne vers de nouvelles crises. Cette fois, c'est au tour des hôpitaux d'être touchés. Les coûts de l'énergie et l'inflation placent les hôpitaux allemands dans une position difficile. Le programme de soutien du gouvernement est arrivé trop tard, selon l'Association des hôpitaux allemands. Selon les statistiques de cette association, un hôpital dépense en moyenne 6 millions d'euros supplémentaires par an pour payer l'électricité et le gaz naturel. Pour soutenir financièrement les hôpitaux, le gouvernement allemand a approuvé un plan d'aide de 8 milliards d'euros afin qu'il soit en mesure de répondre à l'augmentation des coûts énergétiques et à la hausse des prix due à l'inflation. Abuja a accueilli ce dimanche 4 décembre un nouveau sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Plusieurs sujets épineux y ont été abordés. Le sommet de la CEDEAO, tenu ce dimanche 4 décembre à Abuja au Nigeria, a fait des propositions. Sur le cas de la Guinée, la conférence des chefs d'État a demandé un dialogue inclusif et que si toutefois ce dialogue ne pourra pas se tenir à Conakry, la CEDEAO proposera une capitale de la sous-région pour abriter la rencontre. Un sommet au cours duquel la Guinée a été représentée par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Pour le cas du Burkina Faso, l'institution aidera le pays sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la conduite de la transition. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Quels sont les grands acquis du mouvement des Gilets jaunes? Le 1er décembre 2018, les Gilets jaunes se sont affirmés en France, inscrivant leur nom dans les livres d'histoire avec leur autocollant graffiti révolutionnaire sur l'Arc de Triomphe. Avec leur autocollant graffiti révolutionnaire sur l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques du pays. Les Gilets jaunes vont gagner était un slogan qui a résonné dans le monde entier, alors que le mouvement est devenu la grande menace et un véritable mouvement révolutionnaire à laquelle un pays occidental a été confronté depuis plus d'un demi-siècle. Le monde ne s'attendait pas à ce qu'un véritable mouvement de résistance germe en France. Le pays était alors entièrement saisi par la frénésie révolutionnaire. Et c'était parce que le mode de vie français n'est pas aussi extravagant qu'on pourrait le penser. Les Gilets jaunes ont été victimes d'au moins 11 000 arrestations. Parmi eux, un millier sont devenus des prisonniers politiques. 5 000 manifestants ont été grièvement blessés. Il y a eu aussi des dizaines de mutilés à vie et 11 décès. Il est difficile de dire ce qui était pire. La répression par le régime français ou la façon dont les médias et les ONG occidentaux ont calomnié et ignoré les effusions de sang hebdomadaires, les tirs de gaz lacrymogènes et les arrestations massives. Les Gilets jaunes sont une réplique immédiate et permanente aux occidentaux qui prétendent que leurs gouvernements sont plus protecteurs de la démocratie et moins brutaux que ceux des pays non occidentaux. C'est l'un des trois grands héritages des Gilets jaunes. Prospérité, stabilité et démocratie, rien de tout cela n'a été mis en œuvre en France depuis que le projet pan-européen a été activé en 2009. La France n'est plus vraiment la France, à moins que Bruxelles ne le dise, et elle devient de moins en moins sous un système politique qui est encore nouveau. Les Gilets jaunes ont donc vraiment mis 10 ans à se forger. Ils sont même arrivés sur la scène après une décennie pleine de grands mouvements sociaux. Car la première guerre de l'Union européenne n'était pas une guerre par procuration contre la Russie, mais une guerre sociale qu'elle a menée contre ses propres citoyens. Le problème n'était pas seulement la grande récession de 2008, mais le fait que l'Union européenne était le seul bloc macroéconomique à n'avoir mis en œuvre aucun plan de relance majeur. Pire encore, sa réponse a été d'imposer de manière antidémocratique des politiques d'austérité d'extrême droite. Les Gilets jaunes étaient la classe ouvrière pauvre, cimentée par les changements à Bruxelles, et leurs adversaires étaient le bloc bourgeois. les Gilets jaunes ont rejeté l'insistance du monde anglo-saxon, dont les approches sont politiquement conservatrices, selon laquelle tous les groupes populaires en Occident sont nécessairement d'extrême droite. Depuis décembre 2018, il était clair en France que les Gilets jaunes étaient plutôt proches d'une politique économique de gauche, d'anti-impérialisme et d'une conception non-islamophobe et moderne d'un patriotisme sain. Cela explique le taux d'approbation de près de 80% pour le mouvement et sa popularité stupéfiante, en particulier en France, qui était devenue extrêmement cynique en raison des échecs antidémocratiques du projet pan-européen. Le rejet de la réalité actuelle des classes sociales en Occident est le deuxième grand acquis des Gilets jaunes. Cependant, il y a un acquis encore plus grand, dont on a pourtant moins parlé, probablement parce qu'elle nécessite une vue d'ensemble complète de la politique occidentale moderne, qui a commencé en 1789 avec la Révolution française anti-monarchie et anti-aristocrate. L'émergence et la répression des Gilets jaunes rappellent à tous les indéniables échecs du libéralisme. Les Gilets jaunes ne sont pas vraiment nouveaux, mais font partie intégrante de l'histoire des révolutions françaises de 1848 à 1871. Le libéralisme s'est avéré un échec depuis 1848 et les principes libéraux qui sous-tendent le projet pan-européen échouent aujourd'hui. La passion désespérée et la pérennité des Gilets jaunes en sont la preuve et montrent l'hypocrisie, la brutalité et l'inefficacité d'un libéralisme toujours inégal, ce qui est la troisième et plus grande réalisation des Gilets jaunes.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, un sujet qui rejoint le sujet de la Coupe du Monde de football 2000 de cette année au Qatar à Doha. Cette Coupe du Monde a été peut-être une des Coupes du Monde la plus politisée qu'on a pu voir durant ces différentes générations de Coupe du Monde. En effet, la Coupe du Monde a été touchée par la crise ukrainienne et la Russie. Elle a été également touchée par ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et on a vu également la présence énorme et la réaction de gens pro-palestiniens, rejetant même les journalistes israéliens présents ou même les Israéliens voulant être présents pour la Coupe du Monde. C'est le sujet de débat c'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose pour commencer donc le reportage que nous avons préparé. Par la suite, nous allons accueillir nos invités. Tout de suite, le reportage.
Le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais a fait allusion à la forte présence de la cause palestinienne dans la Coupe du monde de football du Qatar et au rejet réservé par les représentants des pays musulmans aux Israéliens dans la foulée de cet événement international. Cela est le signe d'un rejet total pour l'existence même du régime sioniste, a affirmé le cheikh Naïm Rassem. Selon le site d'information Al Ahed News, le sous-secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Rassem, a affirmé que les scènes montrant des citoyens arabes qui évitent la rencontre avec les journalistes israéliens au cours de la Coupe du Monde du Qatar sont le signe que les peuples de la région ne valident pas la décision de leurs gouvernements respectifs de normaliser leurs relations avec l'ennemi. La résistance de la jeune génération face à la normalisation prouve qu'il existe dans notre région un refus primordial envers l'existence même du régime israélien, a précisé le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais. Alors que certains États arabes ont trahi la cause palestinienne et lancé un processus de compromis avec le régime occupant sioniste, des nations arabes ont montré à travers la Coupe du Monde qu'elles ne suivent pas le chemin tracé par leurs dirigeants respectifs et qu'elles soutiennent toujours le peuple palestinien face aux occupants. La Coupe du monde de football 2022 ayant lieu au Qatar a révélé des scènes d'appui à la cause palestinienne avec, entre autres, des spectateurs arabes qui brandissent le drapeau palestinien, profèrent des slogans en signe de solidarité avec le peuple opprimé palestinien et refusent de parler aux médias israéliens. En effet, tous les Israéliens et pas seulement les journalistes ayant fait le déplacement à destination du Qatar à l'occasion de la Coupe du monde de football ont plus ou moins reconnu y avoir éprouvé ce sentiment de rejet. À ce sujet, un média israélien a écrit « La Coupe du monde du Qatar est un miroir qui reflète la véritable place des Israéliens auprès des peuples de la région. Ils ne nous aiment pas, ils ne veulent plus de nous. »
Nous revoilà sur les plateaux, donc nous allons faire venir donc nos deux invités. Nous allons commencer par le docteur Rada Obola, à partir du Liban, à Beyrouth. Bonjour madame Rada Obola.
Oui, bonjour, et bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV.
Merci d'avoir bien accepté d'être notre experte du jour. Notre deuxième invité étant monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm. Bonjour monsieur Rami.
Bonjour et salut à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, un sujet qui fait chaud au cœur, j'ai envie de dire, vu la situation palestinienne qui est extrêmement difficile, c'est la présence énorme des drapeaux et des signes palestiniens durant cette Coupe du Monde de football qu'on savait déjà énormément politisée, qui est la première Coupe du Monde à être présent dans un pays musulman, à être accueilli par un pays musulman, à cet événement mondial. Alors on va commencer par madame docteur Obola. Que pensez-vous donc cette présence de ces remarques, mais également de gens qui s'en sont pris donc à la télévision de l'entité sioniste pour leur dire il n'y a que la Palestine, il n'y a pas d'autres pays sur le territoire palestinien. Que pensez-vous de ces réactions qui n'ont été pas finalement mineures, hein? Ce sont des réactions qu'on a pu voir dès le premier jour de cette Coupe du Monde.
Oui, alors concernant la Coupe du Monde en tant que telle, il y a à peu près, je crois, 10 ans, non, 20 ans, la revue Hérodote avait publié un article selon lequel elle intitulait « Le sport, instrument géopolitique ». À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements géopolitiques aussi présents. Mais avec cette Coupe du Monde, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué justement à renforcer l'image géopolitique de cette Coupe du Monde. Comme vous l'avez bien souligné dans votre vidéo, d'abord, et vous l'avez rappelé, d'abord la Coupe du Monde a eu lieu dans un pays arabe. Bon, premièrement. Deuxièmement, donc, qui porte donc une signification symbolique. L'enjeu pour Qatar était de montrer qu'un pays arabe était capable, même s'il vit sur ses pétrodollars, donc il a la capacité matérielle, et financière, mais en plus il a la capacité au niveau du personnel et donc il est capable d'organiser un événement international aussi important. Premièrement, et donc et là il faut un effort au niveau des infrastructures, etc. Le deuxième enjeu, et ça c'était très important, comme vous le savez, et là je vais peut-être sortir de ma logique dans laquelle vous vous êtes habitué à Presse TV, parce que justement l'événement est très important. La deuxième symbolique, c'est que avant justement avant la date prévue de cet événement, une campagne a été justement déclenchée contre le Qatar sous le titre des droits de l'homme. Et donc, sous ce titre, que le Qatar refuse d'accueillir les homosexuels, donc c'est une violation aux droits de l'homme. Ensuite, avant, ils avaient considéré qu'il y avait une maltraitance au niveau des ouvriers qui ont travaillé justement sur les chantiers, etc., etc. Donc, toute une campagne qui a été déclenchée. Et surtout par les médias, par certains médias occidentaux, pas par tous les médias occidentaux, je parle surtout des médias qui sont qui sont pro-sionistes. Et après, donc, je ne sais pas si c'était pas vraiment par une coïncidence, mais l'ouverture de cet événement était une réponse cinglante justement à cette campagne, à savoir que par un verset coranique qui appelle justement que les peuples sont égaux entre eux et que cela est est inscrit dans le Coran. Et le deuxième point. Vous devez me laisser un petit peu le temps, s'il vous plaît. Le troisième point, c'est avec un des premiers matchs qui est l'Arabie Saoudite qui a vaincu l'Argentine. Là aussi, il faut voir ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Bon, l'Arabie Saoudite, je ne parle pas du régime. Parlons clairement du peuple saoudien. Ok ? Donc, si je mets à part le régime, d'abord, sur le drapeau de ce royaume, il est marqué Mohammed le prophète. Et or, si vous revenez à toutes les campagnes caricaturales contre le prophète, il n'y a pas une distinction si c'est chiite, sunnite, il y a une diffamation contre le prophète. Quand vous avez un peuple qui brandit ce drapeau contre l'Argentine, qui est connu l'Argentine où il y a beaucoup qui est pro-sioniste, bon, là aussi ça a déclenché une certaine effervescence au niveau des réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez pas mal de pays arabes qui ont réussi à dépasser le premier tour et qui brandissaient, qui sont connus pour avoir défendu la cause palestinienne. Et donc la Coupe du Monde, à mon avis, est devenue la Coupe de la Palestine, la coupe de la cause palestinienne. Et donc, cela a été choquant pour les journalistes israéliens et les responsables, certains responsables de l'establishment militaire israélien ont bien souligné que nous, on était conscients de ça, ils ont avoué. Mais l'opinion publique israélienne n'était pas consciente parce qu'on avait tenté de cacher cela à travers justement la campagne de normalisation qui a été faite avec certains pays, mais c'est une normalisation au niveau des régimes et non pas au niveau des peuples. Donc même le Qatari, le Saoudien, le Tunisien, vous avez tous les Arabes de toutes les régions, que ce soit de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays du Golfe, tous les peuples brandissaient le drapeau de la Palestine.
Il y a beaucoup de présence libanaise aussi durant cette Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de présence libanaise. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il faudrait regarder historiquement la présence en Coupe du Monde de football de pays africains et du Moyen-Orient. Je pense que c'est la première fois, je ne veux pas me tromper, je n'ai pas vérifié cette information, comme quoi il y a deux pays du Moyen-Orient que présents pour la Coupe du Monde, également plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Afrique également présents à cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Pour venir à notre deuxième invité, Ahmad Rami, que pensez-vous donc de cette chaleur finalement des peuples, comme vient de conclure le docteur Obola, ce revirement en disant voilà, nous sommes le peuple et voilà ce que nous pensons de la Palestine et il n'y a que la Palestine. Que pensez-vous de ce message fort de cette Coupe du Monde?
Oui, là où il y a des Arabes, des musulmans, et il y a aussi, là où il y a l'être humain, il y a bien sûr la question palestinienne qui est une question centrale dans la politique internationale, dans la politique arabe. Car dans ce domaine, il y a aussi un match politique qui est joué entre le bien et le mal. C'est-à-dire entre la question palestinienne et la résistance palestinienne, qu'il ne faut pas oublier, et l'occupation sioniste de la Palestine qui a duré maintenant depuis 1948. Et maintenant, en réalité, la propagande sioniste veut transformer justement les matchs de football en drogue qui... dont on veut qu'il contribue à oublier les véritables problèmes et à se concentrer sur le football, c'est-à-dire le match de football
Ça s'est retourné un peu contre eux sur cette Coupe du Monde, parce que dès le premier jour, dans les rues de Doha, lorsqu'il y a eu le lancement même de cette Coupe du Monde, les drapeaux, eux, palestiniens, étaient bien là. Plusieurs médias, dont nous-mêmes avons diffusé ces images, ça se retourne un petit peu contre eux. Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur Rami. Mais pour cette Coupe du Monde qui est extrêmement politisée, moi, je ne me rappelle pas avoir vu une Coupe du Monde aussi politisée. Je veux dire, la présence politique, le discours politique est dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oui, justement, c'est ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais conclure, c'est que ça, bien sûr, contrarié, ce qui s'est passé a contrarié les plans de la propagande sioniste. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les peuples arabes et les peuples musulmans et pour les peuples du monde entier, ce qui est normal, c'est la justice. L'injustice est anormale. Donc, essayer de normaliser avec l'occupation sioniste et l'entité sioniste est contre nature. Et c'est pour cela que là où il y a des êtres humains, c'est-à-dire des êtres musulmans et arabes dans le football ou dans la rue, il y a bien sûr aussi la question palestinienne et les questions du monde musulman dont la question palestinienne est la question centrale. Donc c'est ce qui est normalisé avec la lutte contre le sionisme et la résistance. Et c'est ce qui est maintenant la résistance, bien sûr, il y a la résistance militaire en Palestine qui est occupée militairement, mais il y a aussi la résistance médiatique, sportive et dans les matchs et la Coupe du Monde, il y a toujours cette lutte. Parce que dans cette lutte, il y a bien sûr la campagne, l'armée, entre guillemets, sioniste, qui veut faire oublier la question palestinienne et occuper l'opinion publique, et aussi la résistance du peuple palestinien, la résistance des pays musulmans et la résistance de toute l'humanité qui lutte pour la justice contre cette occupation. Et cette occupation, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'occupation militaire, mais c'est aussi le monde d'aujourd'hui est occupé par la propagande sioniste. Et parmi, dans ce domaine du monde, dans le monde, les matchs, c'est-à-dire les matchs comme les matchs de football et ce qui s'est déroulé à Qatar dernièrement.
Merci, monsieur Rami. Docteur Obola, alors vous êtes au Liban. Est-ce que ça fait chaud au cœur? Parce qu'on sait comment le Liban essaye d'aider les Palestiniens et la cause palestinienne tous les jours, depuis de nombreuses années. Quelles sont les réactions donc des Libanais qui connaissent ce conflit depuis trop longtemps déjà, qui ont vu beaucoup des leurs mourir pour cette cause? Qu'est-ce que vous pensez donc de cette image des peuples pro-palestiniennes et qui se fait entendre surtout?
Écoutez, déjà le Liban souffre d'une division horizontale et voire verticale au niveau justement de la cause palestinienne. Certains considèrent que qu'est-ce qu'on a à faire avec cette cause palestinienne, ne se sentent pas du tout concernés par cette affaire, alors que d'autres, au contraire, se considèrent concernés par cette affaire. Donc, les réactions sont bien entendu mitigées. Mais cela dit, ce que les Libanais, plutôt l'opinion publique libanaise, voire les médias, et ça c'est au niveau également des médias arabes, c'est que tous sont d'accord que, vous savez, le sport, il faut rappeler, le sport, je veux dire le football, la face positive de la mondialisation. Donc, ce qui s'est passé avec le fait de brandir des drapeaux palestiniens, vous avez mondialisé à nouveau la cause palestinienne. Donc, on ne peut pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Donc, premièrement. Et donc, deuxièmement, au niveau du Liban, pour revenir à votre question, même ceux qui ne se sentent pas concernés par la cause palestinienne, au contraire, là maintenant, ils sont en train de découvrir peut-être, comme les Occidentaux et les Israéliens, qu'au niveau des peuples, Il n'y a pas de normalisation, même concernant les peuples qui sont des pays du Golfe, et que souvent ces pays du Golfe sont accusés d'avoir normalisé justement, d'avoir été les premiers à encourager la normalisation. Je ne veux pas entrer dans les causes de cette normalisation, la normalisation avec l'entité sioniste. Donc, au niveau des peuples, donc, quand on voit que ce sont les peuples qui décident si oui ou non la cause palestinienne se poursuit, si oui ou non l'entité sioniste doit persister, ou au contraire doit être éradiquée, si, c'est pas une question, ce n'est plus une question qui est liée à un axe. C'est ce que la Coupe du Monde de 2022 a fait découvrir à tous les médias dans le monde. C'est que cette cause palestinienne n'appartient pas à un axe qui est connu sous le nom de l'axe de la résistance, dirigé par la République islamique de l'Iran, avec le Hezbollah, le Liban, la Syrie, l'Irak, etc. Ce n'est pas une cause, elle n'appartient pas à un axe ou bien à un parti. Elle appartient au peuple, et donc les peuples ont donné ont hissé leur voix et ils ont exprimé leur avis sur cette question, point à la ligne.
Merci, docteur. Une autre question, est-ce que ce genre de réaction, parce que certains experts estiment que l'entité sioniste fait du charme à l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite n'y va pas franc jeu, mais et pourrait être sur le point de normaliser, comme dit l'expression, est-ce que vous pensez que ce genre donc, de tapage médiatique peut freiner l'envie de l'Arabie Saoudite, et donc de Ben Salman, j'ai envie de dire, de freiner cette envie de normalisation avec l'entité sioniste?
Alors, si vous me donnez un petit peu de temps pour analyser géopolitiquement, c'est-à-dire pour tenter de dévoiler la représentation géopolitique de Mohammed Ben Salman en tant que futur roi, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer le terrain pour devenir roi, et quand il sera roi, il n'aura plus de problème. On sait très bien comment il a éradiqué l'opposition, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'intérieur avec les anciens princes, et à l'extérieur avec l'exemple de l'affaire Khashoggi. Bon, ensuite, il est passé, étant donné qu'il y a 80% de la population saoudienne fait partie de la jeunesse, parmi ces 80%, il y a à peu près 60% qui sont des femmes. Donc, bien entendu, pour pouvoir gagner leur voix ou leur soutien, pour que son pouvoir soit légitime et accepté par cette génération, il était obligé donc également d'éradiquer ce qu'on appelle le clergé religieux wahhabite. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a ouvert, si j'ose dire, les portes des droits libres, des droits de liberté individuelle. Et donc, quand vous voyez les femmes et les hommes, et la jeunesse saoudienne qui se rend au mondial et qui remercie, qu'on soit pour ou avec, finalement, c'est un peuple qui exprime son droit de s'exprimer envers son royaume. Je ne peux pas intervenir là-dessus, mais je prends les faits tels qu'elles sont. Quand vous avez, que ce soit la jeunesse féminine ou la jeunesse masculine, expriment leur soutien à Mohammed Ben Salman pour les avoir, et expriment, surtout, ils ont exprimé une loyauté envers l'équipe de football saoudienne, mais en même temps, ce même jeune qui exprime sa loyauté envers Mohammed Ben Salman, qui avec son équipe, il exprime à la fois son soutien à la cause palestinienne. Vous pensez vraiment que Mohammed Ben Salman va perdre ses voix, cette jeunesse? Ça, je parle de je parle de ce que des conséquences de ce mondial sur la politique de Mohammed Ben Salman. Or, ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous pensez vraiment que Mohammed Ben Salman, qui est en fait l'héritier de quoi? D'un royaume, mais ce royaume, il est connu sous quoi? Le serviteur des Haramain. Donc, vous avez toute une... La Mecque est tout un symbole. C'est tout un symbole. Vous croyez qu'il va perdre les milliards de musulmans et faire une normalisation officielle avec l'entité sioniste? Oui, il y a une normalisation officieuse, mais je ne crois pas qu'il va faire une normalisation officielle pour ces deux raisons. Une raison symbolique religieuse qui constitue un pilier de la représentation géopolitique saoudienne, et une raison sociale, culturelle, qui est en relation avec la jeunesse saoudienne, le peuple saoudien.
Merci, docteur Oubola. Je rappelle, à partir directement de Beyrouth, du Liban. Monsieur, merci à monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm, de nous avoir donné votre expertise concernant donc cet événement mondial, qui est donc la Coupe du Monde. Je vous remercie encore pour votre expertise. Je remercie vous, auditeurs, de nous suivre sur Presse TV français. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous suivre sur Telegram, les différents réseaux sociaux que nous possédons. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ici, à partir de la capitale de l'Iran. Au revoir.
L'Iran et son 7e art. Film documentaire. Cinéma de cours et premier documentaire. Avant 1914, la plupart des documentaires iraniens sont commandés et regardés par la famille régnante, les Rajars et les hautes classes de la société. Ces documentaires, qui n'ont pas été conservés, étaient apparemment techniquement primitifs, des images d'actualité et des spectacles. Les informations sur les documentaires de cette époque sont peu nombreuses. Les premiers documentaires tournés par Akas Bashi, le photographe en chef de la cour, portent sur des processions religieuses ou sur les lions du zoo de Farah Abad à Téhéran. Ces films, ainsi que des montagnes de films d'actualité russe ou française, sont présentés par Akas Bashi à la cour, lors d'occasions festives comme les naissances, les circonstances ou les mariages. Akas Bashi crée ainsi une forme de cinéma privé en Iran. Les documentaires projetés en public après l'ouverture du premier cinéma iranien en 1904 sont pour la plupart des films importés de France et de Russie. Après la Première Guerre mondiale, la production de documentaires par des Iraniens connaît un nouveau développement avec les films de Khan Baba Motazedi qui renseignent sur la situation politique de l'époque entre chute des Rajars et avènement de Reza Pahlavi. C'est principalement avec les efforts de Motazedi que le public des documentaires iraniens s'étend de la cour royale à la rue. Cependant, les documentaires tournés à cette époque n'ont pas encore pour sujet des personnages ordinaires, mais restent sous le patronage de l'État. Les premiers documentaires sonores étrangers sont projetés dès les années 1930. Le premier documentaire sonore en persan est Le voyage du Premier ministre, présentant une entrevue entre le premier ministre iranien Mohammad Ali Forouri et Mostafa Kemal Atatürk en 1932. À partir de 1935, Ebrahim Moradi, un autre pionnier du cinéma iranien, projette des films éducatifs aux étudiants de Darul Fonoun avec le soutien du ministère de l'Éducation. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences sur les films documentaires iraniens. Pendant les années 1940, peu de films documentaires sont tournés en Iran. Quelques films peuvent néanmoins être distingués, comme un film sur le ski tourné en 1945 par Ebrahim Motamedi ou ceux d'Abdol Rassem Rezaï. Vers la fin de 1940, se crée une nouvelle organisation dédiée à la production de documentaires, Studio des Forces Armées. sous la direction du capitaine Golsorhi et du lieutenant Khaliri, des films de propagande sont réalisés. Plusieurs sont projetés dans des cinémas publics, comme celui concernant le transfert du corps de Reza Shah d'Égypte en Iran, ou l'arrivée de Mohammad Reza Pahlavi à Tabriz après la chute du gouvernement populaire d'Azerbaïdjan en 1946. À part ces quelques films produits par des Iraniens, la plupart des documentaires de cette période sont des documentaires d'actualité à propos de la guerre et produits à l'étranger. Les documentaires britanniques et allemands sont les plus répandus à cette époque, dans la mesure où les alliés et les forces de l'Axe filment leurs activités de guerre. Les documentaires d'origine allemande ont été projetés jusqu'à l'invasion du pays par les alliés en 1941. Le fait que ces documentaires contiennent des passages filmés en Iran et en persan les a rendus populaires. À partir de 1954, commence une nouvelle période dans l'histoire des documentaires iraniens, une phase qui reflète les conditions politiques de l'époque. En effet, le 8 juillet 1954, un nouveau produit est lancé en Iran. Ce nouveau produit et des nouvelles d'Iran, des documentaires hebdomadaires produits par l'USIA en persan et dont certaines scènes sont tournées en Iran. Le service d'information des États-Unis, par l'intermédiaire de l'USIA, sa branche en Iran, fournit gratuitement des documentaires au cinéma iranien, qui sont projetés à des villageois et à des enfants par ses propres cinémas itinérants. 402 installations sont mises en place entre 1954 et 1964, année au cours de laquelle s'arrête ce service. Les sujets traités par ces documentaires sont en rapport avec les projets financés par les Américains en Iran, dans le cadre d'un programme d'aide économique et technique. La production des documentaires est alors supervisée par un officier américain, et les Iraniens se chargent surtout du montage. À partir de 1959, la faculté des Beaux-Arts commence à produire une série de documentaires d'actualité appelés « Nouvelles », destinés à glorifier la personne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. La collaboration des Américains et des Iraniens a donné naissance à un style de documentaire officiel caractérisé par la glorification du Shah, le soutien de l'idéologie, de la politique et des mesures mises en scène par l'État iranien et la justification de l'engagement des États-Unis en Iran. Le cinéma documentaire est institutionnalisé à partir des années 1960. Les réalisateurs, formés par leur expérience avec l'USIS, trouvent leur place au sein de l'industrie du cinéma iranien en tant que réalisateurs, producteurs ou professeurs de cinéma, et la production de films documentaires est encadrée par deux administrations, le ministère de la Culture et de l'Art et la Radio-Télévision nationale iranienne. D'autres administrations ont également marginalement produit des documentaires. L'institutionnalisation de la production de documentaires permet au régime de Mohammad Reza Pahlavi de poursuivre des objectifs de promotion de ses projets de développement et de propagande. La période révolutionnaire entre 1978 et 1981 donne lieu à la production de films au sujet des événements d'actualité. Les films ne sont pas analytiques et proposent plutôt une synthèse d'images ou documents autour d'un même sujet. Les événements de la révolution iranienne, la crise iranienne des otages, la guerre avec l'Irak. les administrations iraniennes et en premier lieu le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique qui remplace le ministère de la Culture et de l'Art soutiennent des documentaires traitant de la genèse, des événements et des suites de la révolution. Certains cinéastes réalisent ainsi des films dans la période post-révolutionnaire avec des fonds fournis par l'État, comme Recherche, tourné par Amir Naderi en 1980, ou Enfants et colonialisme, tourné par Mohammad Reza Aslani en 1981. Les films documentaires sont à présent très populaires et connus en Iran. Et nombreux sont les cinéastes qui se livrent à la production et création de téléfilms. Des films qui ont d'ailleurs connu des succès remarquables aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, gagnant des prix importants dans les festivals de films iraniens et étrangers.
Thank you.